Ce vendredi 20 octobre, l'autre radio présente une soirée ciné-radio au Palace de Château-Gontier sur Mayenne. À 18h, une émission de radio en direct du Palace. À 20h, la projection du film Good Morning England. À 22h30, Radio Star. Et les courts-métrages de Château-Quinault en première partie. Et le tout, s'il vous plaît, pour 10 euros.
Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane.
Salut Fabrice, salut tout le monde.
Vous êtes sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Nous entamons cette soirée ciné-radio pour les 15 ans de l'autre radio. Pardon, je suis intimidé parce que je suis entouré de présidents et de directeurs, surtout de voilà, le président de l'autre radio, de Joëlle Anneau, la directrice du Palace. Pardon. De Wilfried d'Atmosphère 53.
Et de Bernard Magnier.
Et de Bernard Magnier qui a vu les radios libres arriver. De Caroline Delaval aussi, la coordinatrice de l'autre radio. Et donc nous allons parler de la soirée cinéma qui va commencer à 20h avec la projection de deux films. Enfin, qui va commencer d'ailleurs par la projection de court-métrage de Château-Quinault.
C'est ça, court-métrage de Château-Quinault et l'association de Château-Gontier qui réalise des petits courts-métrages localement. Et donc nous aurons comme court-métrage La Voix de l'autre de Morgane, le film de Sofiane réalisé par Sofiane, Le rêve de radio par Jérôme, Jeu de dupe aussi par Jérôme, 15e antenne d'or par Patrick et en notre compagnie, Dominique, la chronique de ma nièce de Patrick et Moteur 27 de Patrick. Alors, ça peut paraître beau tout, mais c'est des courts-métrages, des fois très très courts.
Oui, mais qui peuvent paraître longs aussi, des fois.
Aussi. Quand,
c'est Château-Quinault. Hein, comme ils disent, faites vite avec peu. Comment c'est ça? C'est faites vite avec peu.
Faites bien avec rien.
Faites bien avec rien, mais faites-le maintenant.
C'est ça.
Voilà.
Donc ça a été fait.
Ça a été fait. Maintenant, on verra si c'est bien. Ça devrait l'être quand même. Et ensuite, il y aura le film Good Morning England, un film de 2009 réalisé par Richard Curtis avec un casting anglais incroyable. Billy Nighy, Philip Seymour Hoffman, Harry Sifan, Kenneth Branagh, Emma Thompson, il y a aussi Jack Davenport, enfin plein d'acteurs connus. Ce film sera suivi de Radio Star, une comédie française sortie en 2012, avec notamment Manu Payet, des films qui ont au moins le point commun d'avoir été des échecs commerciaux, et qui ont aussi un autre point commun, c'est que les personnages de Radio Star ont été en partie inspirés de ceux de Good Morning England. Voilà. Sachant que Good Morning England raconte une histoire, la base de l'histoire est réelle, c'est-à-dire qu'autant des radios pirates, un temps que Bernard a connu. Autant des radios pirates, comme en Angleterre, on ne pouvait pas émettre de façon libre. Il y avait notamment Radio Caroline qui émettait depuis un bateau. Et
oui, d'ailleurs, je voudrais juste préciser qu'il y a un de nos auditeurs ou une auditrice qui nous a appelés aujourd'hui. Et quand j'ai décroché, j'ai dit l'autre Radio Caroline, bonjour. Et elle a cru que... On était sur Radio Caroline, c'est quand même...
Et c'est pas la même. C'est pas la même.
Ouais, je Radio... sais, ouais. Mais j'étais quand même flattée.
Et donc Good Morning England parle de cette époque-là. Le film est une fiction complète, le bateau n'a pas existé, et puis les personnages non plus. Mais ça parle d'une époque où vraiment, pour être libre, il fallait être en mer. D'ailleurs, le titre français, mais c'est souvent le cas, la traduction n'est pas terrible, puisque c'est Good Morning England qui fait référence... à Good Morning Vietnam, alors que le titre anglais, c'est The Boat That Rocked, ce qui veut plutôt dire le bateau qui nous a bercé, qui nous a... Donc il y a un jeu de mots entre le bateau et le fait que ce soit une radio. Parce que Good Morning England, en plus, c'est un peu bidon, parce que beaucoup d'émissions qu'on voit dans le film sont surtout des émissions d'après-midi, nocturnes, en fait, parce que ce n'est pas des gens qui se lèvent tôt, en fait. Donc, voilà. Et après, ce sera suivi de Radio Star, un film français donc réalisé par Romain Lévy en 2012, qui aussi a le point commun d'avoir un bon casting avec Clovis Cornillac, pardon, Manu Payet, Pascal Demolon, Sam Kerman, Anna Girardot. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une équipe de radio, d'une émission phare de la bande FM, qui, en perte de vitesse, se retrouve contrainte par leur direction d'entamer un Tour de France pour aller à la reconquête de leur public. Voilà. Et donc ce film a été aussi un échec commercial, mais il a permis à comment... C'est un bon film, hein, vraiment. Enfin, un bon film. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui a permis à Romain Lévy de faire un deuxième, qui était un film avec Kev Adams, dont j'ai oublié le nom, et je pense que je ne suis pas le seul. je vais essayer de le retrouver grâce à Wikipédia. Donc c'est Gangsterdam, qui a été un bitcoin total. Et d'ailleurs, il n'a pas fait de film depuis, c'était en 2017. Voilà.
Depuis, il a fait autre chose que des bides ou...
Non, non, mais il a fait des scénarios, il a bossé en tant que scénariste. Mais Radio Star, c'est vraiment une bonne comédie sympa, avec des personnages sympas, des acteurs qui, on sent qu'ils se sont amusés sur le tournage, tout à fait comme pour Good Morning England. Donc, pour 10 euros, je pense que c'est deux films qui, pour un vendredi soir, c'est très bien. Voilà. Donc, venez nous voir. Voilà.
Il reste encore des places.
Il doit en rester quelques-unes. On va se faire une petite pause musicale et puis après on enchaînera avec les présidentes de l'autre radio et les présidents, les directeurs, enfin
oui,
le
ça.
Big Board. Voilà.
Forget all. Talking about my generation. Why don't you all fade? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Generation.
Sur l'autre radio, à Château-Gontier, en direct du cinéma Le Palace, pour la soirée cinéma des 15 ans de l'autre radio, Ciné Radio. Nous allons parler avec les présidents et présidentes d'autre radio. Donc il y a Morgane, Valentin, Isabelle, Caroline, la coordinatrice de la radio, et puis Joël, la directrice du cinéma Le Palace. On va essayer de faire une interview croisée entre, parce qu'il y a pas mal de points communs entre quand même le ciné et la radio, ne serait-ce que le fait que ce soit deux médias qui sont très appréciés, contrairement à. Quelques autres médias qui ont moins le vent en poupe. C'est les médias qu'on a annoncés comme mourants plusieurs fois. Et ils sont toujours là, ils fonctionnent très bien. L'autre radio va très bien. Est-ce que l'un d'entre vous...
Est-ce que quelqu'un peut confirmer que l'autre radio va très bien ?
L'autre ouais. radio va très bien. Merci.
En même temps,
merci
elle, a que,
pour elle.
Elle n'a que 15 ans. Elle n'a que 15 ans. Mais
15 ans ouais. Ouais.
Elle a déjà 15 ans.
C'est ouais. ça. Ouais. Elle a déjà 15 ans.
Bientôt le lycée.
Elle est adolescente, il y a plein de projets encore. Elle n'est pas trop boutonneuse, ça va.
Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut nous faire un petit historique de votre radio qui est...
Alors,
donc si Valentin va nous faire un petit historique.
Ouais, alors j'étais pas là dès le début, mais on va essayer.
Ouais. elle est née de quoi cette radio en fait ?
Elle est née suite à une radio éphémère qui avait lieu du coup sur le festival du Foirail, si je ne m'abuse. Festival qui avait lieu sur Château-Gontier. Eh bien, il y a de ça maintenant 15 ans, à l'automne. Donc au début, radio éphémère, et finalement, on s'est dit les gens qui étaient, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être cool de continuer. Et donc, avec d'abord des locaux sur Château-Gontier, puis des locaux sur Laval en 2014. Et donc, avec plein de projets. Aujourd'hui, déjà plusieurs salariés, un programmateur, une coordinatrice, une chargée de communication. Un animateur d'atelier
et l'animatrice de la quotidienne qui est un peu centrale quand même.
Et les services civiques qui est arrivé également.
Et des présidentes qui ne savent toujours pas qu'il faut parler dans le micro quand on passe à la radio.
Oui. On a un micro pour trois, c'est pas facile.
C'est pas facile. Ouais. C'est collégial à l'autre radio puisqu'il y a quatre présidents, présidente, président.
Ouais.
Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai
moi je voulais sur l'histoire un petit peu de l'autre radio, j'ai des petites questions pièges parce que je connais les réponses, donc je vais les poser.
Je sais bien. c'est pour ça que j'étais étonné que tu nous demandes.
Donc du coup au départ, alors ça n'a pas été compliqué de monter ce projet là
moi je l'ai plutôt bien vécu puisque je n'y étais pas, donc écoute moi je l'ai
comme tu dis, effectivement c'était à l'initiative du Radio Foirail, donc le Foirail qui c'est un festival de musique qui s'est arrêté et donc est née l'idée de continuer avec la radio en fait, et de avec les gens qui participaient à cette radio éphémère, de créer une fréquence. Et ça n'a pas été facile du tout, puisque pour obtenir une fréquence, il faut faire des demandes, il faut remplir des paquets de dossiers, ça n'a pas été immédiat en fait. Après, il faut trouver du matériel, il faut pouvoir émettre, il faut trouver un endroit duquel on peut émettre. Donc c'était pour ça que c'était en haut, là où où on peut mettre une antenne en fait, et un point assez culminant. Donc voilà, c'était tous ces freins là aussi au départ qu'il fallait passer. Et après, durant aussi la vie de la radio, c'était après ouvrir une autre fréquence. Et je pense qu'aujourd'hui, vous cherchez peut-être à en avoir
une troisième.
On aimerait bien, ouais.
Alors moi, je propose qu'on échange, pour que tu aies un peu la parole. Et du coup, Valentin, tu poses les questions à Stéphane, qui connaît les réponses.
Non, Valentin,
je ne suis plus dans l'autre radio.
Ouais, mais finalement, tu vois, tu nous poses des questions tout en connaissant les réponses depuis tout à l'heure. T'es jamais très loin, Stéphane.
L'autre radio, ça représente combien d'émissions à peu près ? Combien de bénévoles ?
Alors, il y a à peu près 55 émissions sur la grille de programmation 2023-2024. Ça représente entre 70 et 80 bénévoles. C'est un peu stable tous les ans. Et il y a quand même un renouvellement avec tous les ans des nouvelles émissions, des nouveaux bénévoles qui viennent donner leur énergie sur les ondes.
Oui, parce que si n'importe quelle personne qui a envie de faire la radio peut venir à l'autre radio pour développer un projet. C'est pas, voilà.
Oui, tout à fait. En fait, il vient... la personne se présente, on discute avec l'équipe et voit pour un créneau, etc. Comment ça peut s'organiser. On peut l'accompagner aussi dans la création de son émission.
Et ce qui est bien avec la radio, c'est qu'avec un ordinateur, on arrive à faire une connexion Internet, on peut faire plein de choses.
Voilà. Ouais, et puis notre programmateur, il est toujours là aussi pour bien nous aider quand même. Merci Joël.
Et alors tout de suite, on parlait de la naissance de la radio. Et alors, votre propre rapport à vous, à chacun, avec la radio, comment vous y êtes arrivé ? Comment est-ce que vous avez joué d'écoute pour devenir coprésident ? Comment ça s'est passé, votre découverte de la radio, votre envie en fait de s'investir dans cette radio ?
Alors moi, je suis de la période de la caravane de la radio. Donc ça, voilà, ça ne me rajeunit pas.
Le studio mobile.
C'est ça, le studio mobile. Et puis m'est venue avec Rachel l'idée de faire une émission pour les enfants. Donc ça remonte maintenant 2010, je dirais. Donc on avait fait, Joël, il faisait le son, David Bouguier faisait le son aussi. Il mettait des petites musiques et des petites bulles de pluie sur une thématique sur la pluie. Ça a plutôt très bien fonctionné. Et puis, de fil en aiguille, oui, ça a donné envie de s'investir. On a refait avec Joël des émissions un petit peu spéciales. Je pense à Vanessa Mbala quand elle allait concourir la judocate. Avec la mission locale aussi, des petits one-shots sur des thématiques qui, moi, m'intéressaient. On n'est pas à l'abri que ça recommence. Hein. Et puis, j'avais l'impression de ne pas forcément, moi, beaucoup m'investir à part de faire des petites périodes de ménage. Ça n'a pas duré très longtemps.
J'y pensais, j'allais te dire, c'est pas toi qui faisais le ménage dans le frigo.
C'est ça.
Donc, tu nous manques. Hein.
Voilà, bah, je peux le refaire. Hein. Ça n'empêche que quand on est co-président, il faut mettre la main dans la serpillière quand même. Et là, je me sens néanmoins plus utile parce que le fait qu'on soit 4 co-présidents, dont 2 sur le territoire de Château-Gontier et 2 sur le territoire de Laval, ça permet de diversifier, démultiplier nos possibilités pour tout ce qui est signature, par exemple. Donc, j'ai l'impression que j'ai plus de légitimité aujourd'hui. Voilà, vive la radio.
Le pouvoir est dans la plume, sachez-le. Voilà, bah Valentin, moi je peux dire, vas-y Valentin, je t'en prie.
Du coup, alors moi, moi je suis arrivé il y a 10 ans à l'autre radio pour une émission. En fait, je suis venu directement. J'avais connu la radio par un autre bénévole en fait, et je suis arrivé avec mon ami Anso à l'époque. Pour faire une émission sur le rock et la soul, et du coup ensuite j'ai enchaîné avec une deuxième émission que j'anime toujours actuellement, qui s'appelle Le Grand V, et je suis devenu j'ai fait partie du CA il y a 5 ans et j'y suis parti pour y revenir cette année en tant que co-président du coup. Et effectivement c'est un autre moyen en tout cas d'être présent auprès de la radio, et c'est vraiment c'est bien.
Alors, moi, je suis arrivée dans le CE il y a 7 ans, je crois. Je ne sais plus, 7-8 ans. Alors, j'ai intégré l'autre radio pour la musique. On est venu me chercher. Il paraît que tu aimes la musique. Donc, j'ai intégré la discothèque 2 avec Joël. Et puis, le CA, plutôt commission RH et puis les événementiels. Et je n'avais pas du tout comme objectif de devenir coprésidente, mais vraiment pas du tout. Mais voilà, on a su me flatter. Et le fait qu'on soit 4, c'est intéressant parce que on s'épuise pas. On est 4 sources. On a nos compétences, nos avis, nos valeurs. Et je trouve que c'est chouette parce que, enfin voilà, c'est une chouette aventure parce qu'on est là vraiment pour bien-être de tous. On a quand même, c'est une service civique, mais on a 6 salariés. C'est pas rien, donc c'est quand même presque une petite entreprise. Donc c'est un peu de stress, c'est pas une association lambda. Mais voilà, on s'entraide et puis ça se passe plutôt bien. Ah voilà, l'autre radio avance depuis 7 ans. Je trouve que c'est un beau projet. Donc voilà. Et puis par rapport au CSA, on est à Mayenne. On est à Château-Gontier et à Laval. Et on vise Mayenne parce qu'on est très attendu là-bas, sur le territoire de Mayenne. Voilà, voilà.
On pourrait dire qu'au-delà d'être complémentaire, on est supplémentaire.
Oui.
Ah, c'est beau.
C'est beau.
Ça, c'est là. Il y a des littéraires à la radio.
Moi, je vais vous raconter comment j'ai découvert l'autre radio. Donc, je suis arrivée en Mayenne en 2011. J'arrivais de Marseille. Je me suis installée dans une petite maison à Froidfond. Et mon voisin, Christophe Feuillet, était à l'époque président de la radio. Il a collé un autocollant sur ma voiture. Et depuis, cet autocollant ne me quitte plus. Je suis rentrée au CA en 2020. Sur le poste de trésorière, j'ai assuré la présidence à la suite de Christophe pendant 2 ans. Et puis, je suis rentrée dans l'équipe salariée en juin avec grand plaisir, parce que c'est chouette aussi d'en faire son quotidien de travail, en tout cas ce projet-là. Voilà.
Donc ça fonctionne en fait de mettre des autocollants sur les bagnoles.
Christophe qui est un des membres fondateurs, ouais. Un des pères fondateurs de l'autre radio.
C'est ça. Ah. Avec qui, moi, j'avais une émission au départ qui s'appelait L'Agenda. Parce qu'il était venu me choper, on faisait du théâtre ensemble. Et on a fait quelques années L'Agenda le vendredi soir.
Un petit portrait chinois pour faire un, pour les présidents d'autres, enfin les membres d'autres radios, pour faire un lien avec le cinéma. Si vous étiez une musique de film,
ah bah non,
c'est ou un personnage. Vrai. Allez, je vais te.
Qui... Ah bah non. Bah non. On va pas vous perdre.
Bon.
Ouais, je dirais.
Alors attends, si vous, du coup, vaut mieux poser par rapport à la, si vous étiez une émission de radio.
C'est pas mieux.
Si on était un
en
film.
Fait, en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous existez vraiment?
Non, on est des IA, en fait.
Ils sont supplémentaires. Ils sont supplémentaires.
Je sens que ça va me rester, cette histoire.
Non, une musique de film, moi, je dirais la BO de Kill Bill. Et du coup, le personnage, bah, la mariée, tiens, je le prends. Pour défoncer des yakuza.
Donc, tu gardes tous les membres à la fin du film, alors?
Ouais.
C'est ça. Ouais.
Et il n'y a que moi qui reste en vie.
Les autres n'ont plus d'idées. Je ne sais pas, peut-être que Joël veut répondre à la place des présidents de l'autre radio. Si tu étais une musique de film.
Ah bah non,
c'est une question trop difficile.
Si on était un film, ça marche mieux, je trouve.
Eh bah donc, si tu étais un film.
Moi, ce serait Itinéraire d'un enfant gâté. Ah bah, très ça bien. Cloue tout le monde.
Ouais, ouais, non. Très beau film.
Ah bah, j'aime
beaucoup ce film.
Je dois répondre ?
Ah ben, si, oui, si tu veux.
Très bien. Alors, moi, je serais La Jetée de Chris Marker. Voilà.
Que je ne connais pas.
C'est le film qui a inspiré L'Armée des Douze Singes. Oui, tu le connais.
Ah, d'accord.
Voilà. Voilà. C'est un court-métrage expérimental, un petit peu.
Ouais.
Beaucoup.
Pas du tout dans la technologie. C'est ça qui est bien.
Donc, ouais, ça a donné L'Armée des Douze Singes avec Terry Gilliam quelques années plus tard.
Voilà, exactement. Puisqu'on est dans les couches de reprise. De l'intertexte du cinéma. On peut dire ça. J'espère qu'on ne va pas perdre nos auditeurs, là. Ça
non, non, d'ailleurs,
non.
Revoilà la sous-préfète.
Ouais.
Morgane, elle cherche toujours.
Non, j'ai trouvé.
T'as trouvé ?
Ah, allez-y, Morgane.
Soumi.
Non, moi, je suis fan inconditionnel de du Seigneur des Anneaux. Donc, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, cette elfe. Non. Oui.
Il y a des souffleurs derrière.
Arwen.
Ouais,
Arwen.
S'il se trompe.
Voilà.
Merci. On n'a pas fait recette forcément, nous, avec notre questionnaire, en fait, non ?
Non, du tout. Non.
Bon, on va l'arrêter du tout. Voilà. Bon, voilà.
Oui, allez parler cinéma plutôt. Avec les pros.
Ouais, moi, une dernière question, enfin, pour la radio quand même. Le passage justement maintenant au futur. Aujourd'hui, on est radio qui passe par les ondes hertziennes. Ça fait, moi, depuis que je suis à la radio, qu'on entend parler que ben, ça va évoluer et on va passer au numérique. Oui. On n'y est toujours pas.
Ben, si.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, si, on va y entrer. Le numérique, c'est le DAB+.
Parce que pour se resituer...
Tu le dis en anglais parce que...
Non. Moi, j'étais à la RNP.
Non, audio broadcasting.
La radio doit passer au numérique comme la télé, comme le ciné l'a déjà fait. Hein.
Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est déjà passée au numérique sur tout le territoire français et que nous sommes le dernier territoire à... ne pas être encore sur le DAB+, mais ça va venir puisque les dossiers, de participation pour les fréquences ont été ouverts l'année dernière et qu'on a déposé et que les réponses devraient arriver là courant octobre.
C'est quoi la différence avec l'émission hertzienne, en fait ? Il y a la qualité sonore, il y a le fait de pouvoir mettre plus de radios sur la même bande.
Alors oui, c'est une autre technologie de diffusion. La qualité sonore est meilleure puisque du coup, la bande dédiée, il y a plus de marge. Donc en fait, on peut diffuser des sons qui sont moins compressés que ce qu'on utilise actuellement sur la FM. Apparemment, ce serait plus écologique parce que ça utiliserait moins d'énergie.
C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais.
Voilà.
Ouais. Mais après, il va falloir jeter tous les postes. Donc, au final.
Voilà, donc c'est ça. Enfin, c'est toute la question. Et c'est plus écologique, mais moins économique parce que, par contre, ça coûte beaucoup plus cher pour rentrer en fait dans ce système-là. Voilà. D'un coût qui va de actuellement nos charges pour l'émission, donc on a la location d'antenne ou pas, et les charges d'énergie qui sont liées au fonctionnement de l'émetteur et de l'antenne, qui représentent un coût autour de 2000 euros par an. Et pour émettre en zone locale, sur la zone de Laval, donc il faut 3 pylônes, parce que c'est une zone assez étendue, je pense que parce que ça correspond à une zone en termes de nombre d'habitants. Mais du coup, comme c'est pas très dense la Mayenne, pour couvrir le nombre d'habitants, il faut 3 pylônes, alors qu'à Nantes, en local, ils en ont qu'un. Et un pylône, c'est autour de 500 euros de charges de fonctionnement par mois. Donc à 3, ça fait 1500. Donc vous comptez, vous multipliez par 12 mois, ça fait... Alors, je dis comme ça, hein, mais ça va être entre 12 000 et 18 000 euros de fonctionnement en plus par an pour la radio. En revanche, ce qui, pour nous, est avantageux, c'est que en émettant sur cette zone, cet allotissement Laval local, c'est des termes un peu techniques, on va pouvoir être écouté jusqu'à Mayenne, ce qui n'est pas le cas actuellement. En fait, sur les ondes hertziennes, quand on arrive aux portes de Mayenne, on perd la fréquence. Et on a déjà des habitants du territoire qui aiment nous écouter et qui seront vraiment contents de pouvoir nous entendre sur leur récepteur adapté, parce qu'il faut donc s'équiper d'un récepteur DAB+.
Ouais, c'est ça, c'est la question que moi j'avais que je voulais poser. Vous, pour la radio, ça va vous demander à vous équiper aussi en matériel. On parlait plus économique, mais alors là tu parles de 3 antennes, mais chaque radio va devoir s'équiper de 3 antennes comme ça, ou 3
mâts. En fait, chaque pylône est partagé par 13 radios qui partagent une fréquence commune qui est beaucoup plus large. Et donc après, avec le numérique, les postes sont équipés pour passer d'une radio à l'autre sur cette même fréquence qui est très large. Donc il faut qu'il y ait 13 radios sur la zone Laval locale, et qui vont se partager ces coûts de location, d'antenne, d'hébergement, en fait, de diffusion. C'est un peu technique, hein, ça coûtera à chaque radio le prix que je vous ai dit. Hein,
d'accord. Donc ça veut dire que l'autre radio a postulé pour être dans ces 13 radios, en fait.
On a postulé, oui, pour de bonnes raisons. Donc, celle que je citais précédemment, qui est que ça nous permet de couvrir un territoire qui est assez proche du territoire départemental, et qu'on intervient... en termes de couverture de festivals, d'ateliers radiophoniques, EMI, sur tout le département, et que pour nous, ça a du sens de pouvoir être écouté partout. Et on le fait aussi parce que à terme, la FM va évoluer à disparaître. Nous, on n'a pas vocation à devenir une web radio. On veut continuer d'être écouté dans les voitures. Les gens nous écoutent dans leur voiture, sur le trajet de travail. Et si on ne le fait pas, quelle place auront les radios associatives sur le paysage des ondes ? Eh bien, peut-être aucune. Et les habitants du territoire n'auront accès qu'à des radios commerciales ou des radios de service public. Donc, ce qui est important et l'enjeu pour nous, c'est de maintenir une diversité de propositions avec la singularité qui est celle de notre radio, qui ressemble à ses habitants, qui porte la voix de ses habitants et qui se donne la liberté aussi de programmer ce que les gens ont envie de partager avec les autres. Et je ne vous parle même pas, parce que je disais tout à l'heure à Joël, mon collègue qui est technicien, que quand on a déposé le dossier ou pas longtemps après, je suis allée m'acheter une petite radio à Emmaüs avec un petit bouton, vous savez, avec la petite bande rouge qui passe sur les ondes FM, parce que j'aime le son qui crache de la radio et que ça fait partie du plaisir. C'est peut-être un plaisir qui va disparaître. En tout cas, ce qui est important de maintenir, c'est l'existence des radios associatives sur le territoire, parce que c'est un lieu d'expression. Un lieu d'expression citoyenne, et qu'on propose aux gens de se saisir de cet outil d'expression. Donc ce n'est pas, c'est pas descendant, c'est vraiment quelque chose de très participatif, et je pense que c'est très important.
Après, sur la RNT, il y a la Norvège, je crois, qui a supprimé la FM. Par contre, beaucoup d'autres pays autour de nous conservent les deux. Il y a la FM et le DAB+ qui fonctionnent en même temps. Oui. D'ailleurs, les postes de radio, je crois, qu'on achète actuellement sont équipés.
Oui.
Et en France, de ce que j'ai lu, c'était les grosses radios qui freinaient pour ne pas passer, parce qu'il y a une histoire de gâteau publicitaire. Ils ont peur de perdre des parts. Donc c'est ce qui freine, en fait. Parce que, de mémoire, Rachid Arab, qui s'occupait, l'ancien journaliste, qui s'occupait du projet RNT dans les années 2000, avait bien dit qu'en 2011, ce serait plié, terminé, ce serait réglé. C'est pas le cas. Donc,
voilà. Non, mais heureusement que ce n'est pas le cas. Après, moi, on vient de faire cet été, là, on a fait une semaine de radio éphémère sur les quartiers Saint-Nicolas. C'est possible aussi parce que l'ouverture d'une fréquence FM, c'est compliqué. Hein, faut demander au CSA. Enfin, voilà. Mais c'est possible d'ouvrir pendant une semaine les ondes FM sur une radio éphémère. Est-ce que ce sera toujours le cas avec le DAB+ après
sur Paris, il y a plusieurs radios. Il y a plusieurs radios associatives, plusieurs radios, on va dire très locales qui ont pu ouvrir. Ils ont vraiment élargi l'offre.
Hein, ouais, voilà. Mais parce qu'ils ont aussi investi tout un pylône de diffusion avec que des radios associatives. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va être colocataire sur les pylônes. Ouais. Donc, les enjeux sont économiques, commerciaux et politiques. Donc après, il faut se mettre d'accord sur comment on veut émettre. C'est complexe, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut qu'on continue d'exister.
Il faut continuer. Voilà. Ouais. Ok. Merci Caroline.
De rien.
On va faire une petite pause musicale et puis après, on va parler cinéma.
D'accord.
Ça te va,
Stéphane ? Non, moi, je suis super content.
Je dis ça, je t'ai pas demandé ton avis, mais...
T'as fait un conducteur, c'était marqué à 30, on fait une pause musicale. Bon,
on est un peu en retard sur le
film. On y va quand même. Voilà.
Mais en paix, ça ne pouvait pas durer. Tu me l'as prouvé pour ne pas changer. 7h du matin, à nouveau, je te dis déjà.
Je t'en supplie, baisse un peu la radio.
On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça.
Je t'en supplie, baisse un peu la radio.
Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Chanter les derniers succès. Autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'ai Madame Mireille Mathieu avec son credo. J'aime Hallyday et les autres aussi. Oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'aime Hugo Frey. J'aime bien Antoine avec ses oeillets, ses chemises à fleurs, son harmonica et ses cheveux longs.
Fabrice ?
Exactement.
Ça va ? Ça se passe bien ?
Plus ou moins, c'est très bien.
Ouais. Il y a un petit peu plus que de moi ou...
Non, ça va très bien. On est en direct du cinéma Le Palace pour la soirée ciné-radio pour les 15 ans de l'autre radio. Avec dans maintenant on va dire un peu moins d'une heure et demie, la projection des courts-métrages de Château Kino à 20h, suivi de Good Morning England, puis de Radio Star. Donc, venez nombreux. Et là, nous allons parler plus de cinéma.
C'est ça.
C'est ça. Donc, nous sommes avec Joëlle Anneau, la directrice du cinéma Le Palace, et puis Wilfried Jude d'Atmosphère 53.
Bonsoir.
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 Donc, on discutait un peu hors antenne depuis combien de temps Joëlle était directrice ou
responsable, gérante
du cinéma Le Palace.
Voilà, je suis arrivée en 2000, donc depuis janvier 2000.
Depuis janvier 2000, ouais. Et donc, le cinéma a évolué depuis 2000, puisqu'il y a eu la création d'une troisième salle en 2010.
C'est ça, en 2010.
Moi, je me rappelle être venu au ciné dans la deuxième salle quand il n'y avait que deux salles.
Ouais.
Et que j'avais fait, je crois que j'étais tout seul dans le cinéma.
Oh bah, il y a eu une grosse évolution entre le moment où, avec les deux salles, on avait monté, parce que le premier propriétaire, je crois qu'il faisait à peu près 20 000 entrées,
ouais,
même moins, parce que c'était 20 000 entrées avec ses autres cinémas de Segré et je ne sais plus lequel il avait, la Renazé, je crois. Et moi, quand j'ai repris, on est monté jusqu'à... Voilà, le maximum, c'était 60 000 entrées. Et on s'était dit, enfin moi, je m'étais dit, je ne peux plus aller plus loin. Là, de toute façon, ça ne peut que redescendre. C'est quand, à un moment donné, on plafonne. Et je savais qu'il fallait rénover. Il y avait beaucoup de personnes, je sais, qui repartaient soit à Laval, soit à Angers, parce que c'était plus neuf. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une forte... En 2010, quand on a rénové donc, les deux salles en gradin avec des couleurs, et puis la troisième salle en haut, qui est la préférée des cinéphiles, ça a tout de suite ça a monté 70, 80. Et je suis arrivée en 2019 à pratiquement 100 000 entrées. C'est quelque chose qu'on s'y on pensait être plutôt dans un confort de qualité de projection, de pouvoir continuer les films plus longtemps, pouvoir avoir plus de films indépendants, petits films, arrêts et essais, etc. Et en fait, ça a tellement augmenté qu'on a augmenté le nombre de films, de passages, et puis j'ai eu de plus en plus de sorties nationales.
Oui. Sachant que le cinéma, il a trois salles, mais qu'il y a... En général, une bonne douzaine de films à l'affiche par semaine, quoi.
Oui, facilement. Oui. Plus les écoles.
Demain, il y a une séance en partenariat avec le Carré, avec Le Roi et l'Oiseau qui passe.
Ouais. Oui, à 14h30.
Je crois que c'est une version restaurée.
Le Roi et l'Oiseau, c'est une version... Oui.
Vous êtes aussi avec Atmosphère.
C'est avec Atmosphère.
C'est un partenariat Atmosphère, Le Carré, Le Palace.
C'est une très bonne idée. je sais pas, demain je viens avec ma fille en fait, hein, parce que c'est une très bonne idée.
Voilà. Ouais, il y aura un petit atelier après le film.
Je sais pas si je suis assez compétent pour faire, mais ça sera bien. Ouais, c'est... Ouais. Donc on parlait aussi de la réelle. Oui.
Est-ce que j'ai du son là? Ouais. Non, c'est un excellent film. Je voudrais quand même juste redire que les dialogues sont de Jacques Prévert et que c'est vraiment un texte magnifique. Et c'est tout un univers décalé, ce film-là, Le Roi et l'Oiseau.
C'est un
chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre absolu.
On peut dire, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour venir le voir, en tout cas. Voilà.
Non. Et donc on parlait aussi de l'évolution du cinéma, puisque la radio a évolué sur les 15 dernières années, a évolué avec le numérique qui a du mal à passer, mais qui arrive. Et le cinéma, lui, le numérique, il est arrivé, ça a commencé il y a 20 ans.
Ouais,
Les pellicules, on en parlait tout à l'heure, les pellicules, on...
On n'en voit pratiquement plus. Hein. Voilà. Ouais.
Les films arrivent comment? Ils arrivent par...
Maintenant, on les reçoit pratiquement par Internet, comment on appelle ça en je sais pas le mot.
En dématérialisé,
on n'a pratiquement même plus de disque dur. Avant, c'était en disque dur. Maintenant, tout est sur plateforme. Moi, je vous avoue que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. On devient de plus en plus dépendant, en fait. Parce que là, par exemple, je lance un message. Du coup, je suis à la radio, j'en profite. Juste aux trois places du Pilori, c'est un cinéma. J'ai toujours pas la fibre. Tout le monde autour, les nouveaux habitants, les nouveaux appartements, tout le monde a la fibre, pas nous. Donc j'ai tout fait, j'ai appelé Orange, j'ai appelé partout. Pour dire qu'on a beaucoup de mal à avoir du réseau et à avancer, à travailler un peu plus vite.
Ah, sans la fibre.
Je reste une petite entreprise, donc peut-être qu'Orange pense que j'ai les moyens de payer. Et donc, ils font rien. Donc, je ne sais plus quoi faire, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une galère.
Ouais.
Voilà. Là, j'imagine. Et le numérique, ça.
En
ça
gros, devient, sans la fibre, c'est 300 fois moins, voilà, moins rapide. Quoi.
Voilà. Bah oui, puis avec le numérique, de toute façon, voilà, c'est, ouais, ça devient une galère. J'ai beaucoup de films, hein, j'en ai plutôt une quinzaine qu'une douzaine. Et voilà, on essaye de faire au mieux, d'avoir une programmation très, très diversifiée. Et j'essaie de mettre le plus de séances, voilà, un maximum de séances possible.
Tu faisais un appel à mécénat, là, c'est ça, auprès d'Orange?
Ah non, c'est, oui, de bonne volonté. Hein.
Là, je ne sais plus. Là, je ne sais même plus. Donc,
Orange, si tu nous écoutes.
Mais autrement, avec les supports numériques, vous avez toujours autant de liberté qu'avant ou pas? Parce que moi, je me rappelle d'une séance, c'était il y a déjà quelques années, c'était un James Bond. Et le film ne pouvait démarrer dans le cinéma qu'à une date précise et une heure précise.
Y a les conditions des distributeurs. Là, c'était une avant-première.
C'est une avant-première, ouais.
Donc, l'avant-première, on a souvent, je ne sais pas, ils ont très peur. Donc, on a souvent les KDM vraiment juste avant.
Ouais.
Donc, si on a un souci technique ou quel qu'il soit, on a toujours des... Il y a des maintenances. Enfin, pas des maintenances, on a des supports où on appelle les labos. Parce que les KDM, il y a plein de versions, mais de plus en plus de versions. Donc, des fois, on ne reçoit pas la bonne version de la KDM. Et au dernier moment, c'est un peu panique.
Moi, je pense qu'il faut que tu leur dises que tu n'as pas la fibre et qu'il faut qu'ils l'envoient avant parce que ça prend plus de temps.
Oh, mais ils s'en foutent.
Oui. C'est quelque chose qu'on avait découvert pour l'histoire des supports de films, qu'on avait découvert d'une précédente soirée avec l'autre radio. C'est qu'on avait pris un film en Blu-ray pour l'image et en DVD pour le son. Et le film, c'était Drive, le film n'a pas la même durée sur le Blu-ray et sur le Drive. Il y a 3 minutes d'écart.
Voilà. Ah oui.
Ce qui fait qu'on avait un décalage sonore en permanence, et c'était assez galère.
C'est pas pulsé à la même temporalité. Hein.
C'est ça.
Il doit y en avoir un à 25 images secondes et l'autre à 29 quelque chose.
C'est ça. Et l'idée, nous, c'était de faire une soirée rétro drive, ciné-drive. Mais c'est vite devenu désagréable. Oui, c'est avec l'atmosphère, c'était très désagréable. Ouais. Donc on avait appris ça. Ouais. Puis vous m'aviez dit aussi qu'il y avait des contraintes de diffusion liées aux gros films. Par exemple, Star Wars, quand il est passé, il vous imposait deux salles.
Alors, toutes les sorties nationales, il y a des conditions. C'est-à-dire que les distributeurs sont en réunion avec leur direction. Les conditions sont imposées à toutes les salles. Donc, si moi, j'essaye de voir un peu ce que j'ai. En plus, je programme une vingtaine de petites salles, des monosalles. Donc, qui n'ont pas les moyens. Et j'essaye de leur avoir des films un petit peu, pas trop tard. Et eux n'ont pas les possibilités d'avoir trop... Il n'y a qu'une salle, de jouer que le même film dans une salle. Donc, j'essaye toujours de négocier un petit peu, j'arrive. Mais oui, il y a des conditions très fortes parce que les autres salles, si on impose aux autres salles de faire 8, 10 ou 12 séances, il faut que tout le monde soit au même niveau. Sinon, il y a les salles qui vont appeler Disney pour dire « Ah, Château-Gontier, ils n'ont pas le même nombre de séances que... » C'est déjà arrivé. Voilà. Donc, ils font un petit peu... Les distributeurs font attention à ça.
Parce que les gros films permettent aussi d'avoir des petits films parce que les films qui ramènent des spectateurs permettent aussi d'avoir les films qui ramènent moins de spectateurs.
C'est ce que je leur dis. C'est important. C'est que, d'accord, j'ai les films... C'est important d'avoir les films de ce que j'ai appelé commerciaux, divertissement, parce que je fais venir les familles. Il y a de la publicité, les gens viennent. Et en même temps, quand ils viennent, ils voient les affiches, les programmes d'autres films, des documentaires, des films à réessayer ou d'autres films plus indépendants et donner envie d'aller voir autre chose, d'être plus curieux. Parce que c'est
ce que permet Atmosphère 53 aussi, d'avoir des séances tous les lundis au Palace de Château-Gontier.
Alors, on est associé au Palace de Château-Gontier pour les coups de cœur à réessai. Effectivement, on fait ça à Château-Gontier, à Ernée et à Évron. Donc, trois cinémas sur le département.
Plus de cinéma en plein air l'été, plein de choses. Mais en partenariat, oui.
Pour resituer un peu Atmosphère 53, on anime le réseau de salles de cinéma du département. Il y a 10 salles de cinéma, enfin 11 bientôt, sur le département, avec l'ouverture de l'avant-scène très prochainement à Laval. Donc on propose des. Donc on est en charge des dispositifs scolaires, entre autres. On a un dispositif scolaire qui s'appelle Ciné-Enfant, qui est un dispositif maison, j'allais dire, et un ciné-lycéen. Et autrement, on est coordinateur du dispositif Collège de cinéma, donc ce qui ramène un certain nombre d'élèves dans les salles de cinéma de la Mayenne. Et puis, on fait aussi, voilà, par rapport au réseau de salles, on est aussi un peu cellule de veille pour le réseau de salles, notamment pour le changement de matériel. Là, c'est dans les tuyaux pour plusieurs salles du département, le changement de matériel, parce qu'il y a une obsolescence, j'allais dire, programmée des projecteurs numériques.
Oui.
Et il y a une nouvelle génération de projecteurs qui arrivent, notamment les projecteurs laser, qui sont a priori moins énergivores, et qui nécessitent moins de clim, etc. Donc, qui sont peut-être l'avenir de la projection en salle. On est là pour animer le réseau de salles, mais on est aussi là pour proposer donc, des festivals. On propose 3 festivals. Un qui est localisé à Laval, qui est donc le festival du film judiciaire de Laval, qui aura lieu du 15 au 18 novembre prochain. Mais on fait autrement les rencontres cinéma séantées en janvier. Donc là, c'est sur quasiment tout le département. Il n'y a que 2 cinémas qui n'y participent pas. Et notre gros événement, qui est les Reflets du cinéma, oui, au mois de mars, qui met à l'honneur un pays chaque année. Donc en 2024, ce sera le Canada. Donc voilà, donc on anime le réseau de salles. Et on fait aussi des coups de cœur à réessai dans plusieurs salles du département, dont j'ai la lourde charge de m'occuper. Ouais. Voilà.
Ce qui m'a permis, moi, de voir les Feuilles mortes lundi dernier, par exemple.
Formidable.
Et c'était... C'est un film marquant. C'était bien. Ouais. C'est bien de pouvoir avoir des choses comme ça, d'avoir une offre. Enfin, le Palace, c'est 3 salles, comme je disais. C'est 3 salles, c'est que 3 salles. Et c'est 12 films par semaine. Parce que moi sur les réseaux, on parle beaucoup du prix du cinéma, du prix du billet.
Je suis pas cher. Hein.
Vous êtes moins cher que ce que je payais quand j'avais 30 ans de moins. Voilà. Je l'ai calculé, c'est qu'en fait, ici, pour faire la pub, c'est 7,50€ le ticket. 7,50€, c'est à peu près 49 francs, pour ceux qui connaissent. Bernard, vu que tu as connu les radios libres, tu as connu les francs. Et en fait, je payais 42 francs, moi, quand j'allais au cinéma, on t'arrive pas. Et donc, c'est le même prix, c'est même moins cher. Parce que avec,
Oui, j'ai commencé avec 6,50€, ouais, et je suis à 7,50€. Donc, j'ai pas, ouais, trop augmenté.
Et
c'est vrai que vraiment, le message, c'est que les petits cinémas indépendants, y en a de moins en moins. Parce que voilà, c'est quand même assez cher. Hein. Il y a des charges, le numérique, les maintenances, l'électricité, tout devient beaucoup plus cher. Les charges salariales, c'est très cher aussi. Et moi, ce que je fais, c'est par passion. C'est parce que j'aime cette animation et j'aime aussi proposer des films qui font réfléchir. Hier, par exemple, on avait un ciné-rencontre, donc j'ai projeté le film « L'océan vu du cœur ». Qui est, y avait eu déjà en 2018 La Terre vue du cœur.
Avec Hubert Reeve.
Avec Hubert Reeve, Frédéric Lenoir et puis beaucoup de scientifiques et de passionnés qui veulent défendre la nature, l'environnement. Et ces deux films sont magnifiques. L'océan vue du cœur, c'est magnifique. C'est un film pour emmener les enfants. C'est cette génération-là qui est impactée. Et c'est plein d'espoir, c'est plein de... Parce qu'en fait, l'humain, on a à redevenir créatif, inventif. Et plus arrêter d'avoir peur. Ce film parle de tout ça. Et il y a de superbes images. Et voilà, moi, je trouve que... Hier, j'étais un peu déçue. On était une cinquantaine. C'est pas mal. Mais ça devrait... il devrait y avoir beaucoup plus de monde venir voir ces films, être curieux à un prix 5€.
Oui, comme les séances Atmosphère 53, d'ailleurs, qui sont à 5€.
Oui, enfin, pas les séances coup de cœur, mais les séances en partenariat.
Ouais.
Oui.
Les séances coup de cœur sont à 5€.
Oui.
Sont à 5€. Donc, c'est vraiment pas cher.
C'est vraiment pas cher.
Donc,
pas cher.
Être juste curieux et voilà.
Ouais, et puis ça. Ouais. Moi, j'aime bien les grosses productions américaines. La fois où j'étais venu au Palace, il n'y avait personne parce que c'était un film avec Belmondo qui passait en face et moi j'étais allé voir un chef-d'œuvre du cinéma américain, c'était Freddy contre Jason. Ah. Et je devais être tout seul, mais en même temps, le ciné permet d'avoir plein d'autres choses et l'atmosphère permet d'avoir des bonnes surprises, ce qu'on a beaucoup moins avec les grosses productions, parce qu'on sait ce qu'on va voir, en fait, globalement.
On est un peu, effectivement, on est là pour promouvoir un cinéma de ouais. qualité, un cinéma différent.
Un cinéma différent, ouais. ouais.
Même si, pour Coris Maki, c'est quand même un cinéaste qui a son public. Enfin, il est relativement connu. J'essaye aussi de programmer de ce qu'on appelle de l'art essai porteur, dans la mesure du possible, même si parfois je fais des petites exceptions. Là, j'ai programmé Le Gang des Bois du Temple, qui j'espère trouvera son public, mais c'est un film fabuleux, enfin, c'est vraiment très très beau. Mais voilà, c'est un film plus difficile, j'allais dire, pour accéder au public. Donc voilà, c'est pareil pour le festival des reflets du cinéma. J'essaye de proposer quelque chose d'éclectique. Et qui parle un peu de tous les cinémas du pays en question. Alors, c'est pas facile en 35 films. Hein,
ça doit être plus facile avec certains pays que d'autres en plus. Donc,
Le Canada, on a. Enfin, en tout cas, le Canada, là, 80% de la production est québécoise, en fait. Donc, c'est plus compliqué de trouver des cinéastes anglophones, par exemple.
Ouais, parce qu'eux, ils vont travailler directement aux États-Unis.
Alors, voilà, c'est plus compliqué.
Ouais.
Voilà, il y a un très, très fort. Engouement pour le cinéma québécois, notamment en France. Il y a beaucoup de films qui sont distribués en France. Donc, voilà. Mais on trouve. On cherche, on trouve. Voilà. Mais pour en revenir à l'avenir, effectivement, je voulais juste glisser un mot sur l'avenir du cinéma et des intelligences artificielles.
Oui.
Donc...
Parce que, comme disait Joël, il faut rester créatif avec les intelligences voilà. artificielles.
Alors, c'est très compliqué.
C'est facile d'être créatif, en fait.
Oui. Alors, c'est facile d'être créatif et en même temps, le grand capital s'en empare assez vite. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de tâches qui peuvent être confiées à des intelligences artificielles dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que l'intelligence artificielle peut aider sur des tâches répétitives et sur des tâches ingrates, j'allais dire. Quand vous avez ChatGPT ou etc., moi je lui ai demandé de me faire un tableau l'autre jour avec 10 films canadiens qui dataient de 2020 à 2021. Il m'a sorti un tableau Excel en une minute, enfin même pas, en 30 secondes. Donc voilà, mais sur des tâches automatisées, peut-être que l'intelligence artificielle est intéressante. Sur le cinéma, il y a plein d'outils qui sont en cours de développement qu'on a déjà dans nos téléphones portables. Hein. Le deepfake, par exemple, où vous pouvez mettre le visage oui. de quelqu'un sur, et lui faire chanter n'importe quoi. Ça, on l'utilise déjà au cinéma.
Et d'ailleurs, ce procédé est intéressant parce qu'il y a des grosses productions américaines qui ont dépensé des grosses sommes d'argent pour rajeunir des acteurs et ce procédé de deepfake qui est arrivé d'Internet et qui coûte trop fort rien et était bien plus convaincant que ce qui se passait dans les grands studios, en fait, où un acteur rajeuni reste un acteur rajeuni, alors qu'il y a des scènes faites par des amateurs, entre guillemets, où des acteurs ont été changés dans des films connus, notamment Retour vers le futur, et on ne voit pas du tout la différence entre le vrai film et le... Sauf que l'acteur, c'est plus le même, en fait.
Voilà.
Ouais. C'est assez bluffant, ouais.
Mais par exemple, sur le de-aging, donc ce qu'on appelle le rajeunissement artificiel, vous avez peut-être vu le dernier Indiana Jones, mais il y a la séquence d'ouverture, c'est 30 minutes de de-aging.
Oui.
Mais au-delà de l'effet spécial, j'allais dire, qui moi, j'ai l'impression de. Enfin, je trouve ça assez morbide à titre personnel. J'ai l'impression de voir des masques mortuaires numériques, mais ça, c'est mon avis. Hein, ça m'a beaucoup marqué dans The Irishman de Martin Scorsese pour Netflix. Quand on voit le vieux De Niro qui a un masque numérique de 40 ans. Mais ça, c'est très impressionnant, je trouve. Mais en fait, là, aujourd'hui, il y a déjà des films qui sont faits avec des intelligences artificielles. Il y a un court-métrage qui a été fait avec une intelligence artificielle qui a écrit le scénario et qui a fait un découpage technique du film. Donc, les techniciens étaient des purs exécutants de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a Disney qui a utilisé une intelligence artificielle. Non, je ne sais pas si c'est Disney ou c'est la Fox qui a utilisé une intelligence artificielle pour faire une bande-annonce d'un film. Donc le film, ils ont rentré le synopsis du film et il a été puisé. Ouais. L'intelligence artificielle a été puisée dans des films similaires pour pouvoir générer une bande-annonce du film qui va sortir. Ouais. Donc ils utilisent...
De toute façon, même quand on voit la qualité visuelle d'Avatar 2, qui, même du premier, hein, qui tout est faux, mais il y a quand même de l'humain derrière. Bruce Willis, je crois que Bruce Willis a vendu son image numérique Donc il pourra tourner des films plus tard quand il sera plus là.
Surtout qu'il va pas très bien, Bruce Willis.
Il va pas très bien. Ce qui veut dire qu'on peut quand même vraiment imaginer que dans quelques années, on puisse voir un film où il n'y a aucune intervention humaine à part la personne qui paye au départ. Quoi.
Alors oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu la grève à Hollywood, hein, notamment des acteurs. C'est une grève sans précédent des acteurs en disant voilà, quelle est mon image numérique et qu'est-ce qu'elle transporte une fois que je suis mort. Star Wars l'a déjà fait en reprenant des images de Vincent Price. Je crois, pour les coller artificiellement. Donc, à qui appartient l'image d'un acteur ? Ça pose des questions juridiques, ça pose des questions éthiques. Y a aussi la voix. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle maintenant qui duplique et qui réplique les voix assez facilement. Moi, je traîne sur TikTok et j'ai vu une reprise d'Orelsan avec la voix d'Emmanuel Macron, par exemple.
Oui.
Donc, et ça, c'est une appli. Hein. C'est une appli qu'on peut télécharger pour son ordi. Donc on ose imaginer sur des endroits où il y a des sommes d'argent en jeu qui sont phénoménales, comme Hollywood.
Oui. Ouais.
Moi, je suis assez impressionné. C'est-à-dire que dans l'action culturelle, on fait beaucoup d'actions culturelles. J'ai déjà des idées d'ateliers comme ça qu'on pourrait faire autour de l'intelligence artificielle, notamment écrire un film en image fixe, un peu comme La Jetée, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un film en image fixe. C'est sa particularité. Et faire un film avec que des images générées par Midjourney, fait par des enfants, et images générées, et on fait un film en image fixe grâce à l'intelligence artificielle. On doit pouvoir détourner l'intelligence artificielle et faire de l'action culturelle. Et l'apprivoiser.
Voilà, ouais. On va conclure, c'est ça, Joël ? Il faut conclure.
On n'a pas 5 minutes ?
Moi, je voulais quand même dire qu'on a vraiment de la chance sur notre territoire d'avoir Joël qui est engagé, qui fait passer des films qui ne vont pas forcément lui faire beaucoup de rentrées financières, alors qu'elle pourrait passer son temps à passer des grosses productions américaines, comme les apprécie Fabrice, ou faire que des Disney.
Moi, je prends de tout, en fait.
Sais, Fabrice, mais il fallait bien quand même que je t'envoie un petit pic. Ouais. Voilà, sur notre territoire, on a non seulement la radio qui propose un programme très éclectique, et on a Joël aussi, et c'est vraiment à souligner. Merci, oui. Joël.
Moi, je me rappelle d'avoir demandé si un film passait, c'était pas prévu, et puis finalement le film a été programmé. Voilà, donc c'est pas beaucoup de cinéma, on peut faire ça. C'était La Fille de Brest, hein, le film sur le Mediator, et vous aviez. J'étais passé, j'avais demandé s'il était programmé. Ouais. Vous m'avez dit que c'était pas prévu, et il y a dû avoir d'autres demandes, et puis le film a été programmé finalement.
D'accord, voilà. Bah peut-être.
Il n'y a pas beaucoup de cinéma, on peut faire ça.
On essaye de passer quand même, on peut pas tout passer, mais.
Non, mais c'est.
On essaie de passer les films et. Important. Ouais. Est-ce que je peux donner deux coups de cœur ?
Oui, après moi je ferai des excuses, mais allez-y.
Voilà. Alors, coup de cœur, l'océan vu du cœur, vraiment, je répète. Et l'autre, c'est une comédie que j'ai vue en avant-première et que j'ai beaucoup appréciée, qui est drôle et qui est très bien faite. C'est Une année difficile.
Un film des frères voilà, d'Eric Toledano et.
Ouais, c'est ça.
Et Nakache. Ouais.
Il y a des bons messages, mais c'est très plaisant à voir.
Ils sont. Ouais. Vas-y. Non, mais ils sont à l'affiche. Là, moi, je vais m'excuser auprès de l'émission Dance Hall Social Club, qui est à 19h, et on a mordu sur. Ils sont en direct ? Non, bon. Donc,
ça va bouffer un petit peu de là. Parce que.
Bon. Oh, ah, bah.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Tu vas jouer.
Ouais.
Je voulais tous vous remercier en tout cas pour l'émission.
Bah oui, mais je voulais faire intervenir Bernard dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et si, juste parce qu'on parlait tout de suite d'intelligence artificielle, parce que Bernard, artiste bien connu. Non, mais toi, ça, c'est quelque chose. Comment tu le vois ? Parce que tu réalises des films aussi, t'en as fait. Par rapport à tout ce qui est dit, comment tu vois ça, toi ?
Bah dans un premier temps, oui, ça fait. Non, il y a le côté un petit peu effrayant de la chose, mais. Faut pas. On va toujours. Après, je veux pas passer pour un vieux con. Donc, je suis pas contre. Je ne suis pas du style. C'était mieux avant, etc. Mais en effet, faut être particulièrement. J'ai entendu avec intérêt la façon dont on peut en effet s'en servir justement en maîtrisant. C'est comme un nouveau jouet, quoi. Voilà, donc à chaque fois que tu as un nouveau jouet, il y a un abus qui se produit et des dérapages obligatoirement. Donc,
après...
voilà. Il y a toujours un revers, quoi, voilà, oui. Un négatif. Donc heureusement qu'il y a des gens qui utilisent le même la même technologie, le même progrès pour en tirer quelque chose de correct. Quoi.
Oui, puis c'est.
Mais moi, voilà, parce que bon, je comprends en effet que des scénaristes à New York ou ailleurs, enfin des, oui, c'est ça, ou des gens qui font du montage, enfin toute une bande de techniciens indispensables dans la chaîne. La réalisation d'un film, bah, ces gens-là, d'un seul coup, se retrouvent sur le trottoir, quoi, tout simplement. Ouais. Quoi.
Oui, après, c'est comme tous les. Quand on parlait de l'évolution du ciné et de la radio, le ciné et la radio ont failli être tués, soi-disant, par la télé, et puis finalement, tout le monde a trouvé sa place. C'est plutôt la télé qui n'est pas trop en forme. Il y a eu les plateformes après, les VOD, pareil, ça devait tuer le cinéma. Et puis finalement, il y a un truc qu'il n'y a pas dans les plateformes. D'ailleurs, elles se mettent à acheter des salles de ciné pour, aux États-Unis en tout cas. Et là, pour moi, là, l'intelligence artificielle, ça va être pareil. C'est que c'est vertigineux ce qu'ils proposent. Mmh. Ça va à une vitesse terrible. Et parce que bientôt, l'image ne sera plus une preuve, en fait. C'est même, on peut déjà dire que c'est le cas. Oui. Dans l'actualité récente, on s'en rend compte. Et mais il y a quand même quelque chose, comme tu dis, de toute façon, il faudra vivre avec. Et puis, il y a des choses impressionnantes à faire avec ça. Quoi. Voilà.
Et donc, voilà, pour conclure, c'est à moi de m'excuser.
Oui, voilà.
Tu t'es excusé, moi, je me réexcuse auprès de l'émission de Dance Hall Social Club.
Voilà. Bon, on va conclure. Bonne soirée ciné, bonne soirée à vous, tous les auditeuristes, j'adore ce mot. Et puis, bonne soirée sur les ondes d'autres radios, bonne soirée au cinéma Le Palace, venez voir les films, et à très bientôt.
Ça
merci à vous.
Merci à vous.
Voilà.